Et il y a un débat consacré le soir, un débat consacré à la décroissance, et un débat contradictoire entre un pour et un contre, parce que c'est un concept qui est discuté, y compris au sein du mouvement altermondialiste. Donc voilà pour les deux jours à venir. Et enfin, il y a la ferme ouverte de la Confédération Paysanne vendredi, et samedi, on revient à la Manu pour toujours le salon des associations, et un débat auquel on tient relativement beaucoup, qui est sur les forums sociaux, pour quoi faire. Il y aura des témoignages de gens de Nantes qui sont allés dans les différents forums sociaux, mondiaux, européens, locaux, et on essaiera de se poser la question du forum social de Londres. Il y aura quelqu'un qui contribue au comité d'organisation du FSE de Londres, qui a lieu du 14 au 17 octobre, et on cherche un mode d'organisation pour les gens de Nantes qui souhaiteraient se rendre au forum social européen, donc... Il y a une table qui est ouverte à cet effet. On va voir ce qu'on peut faire en covoiturage, en bus et en autre chose. Et il y a une autre rencontre à Forum Social Européen, c'est la réunion des forums sociaux locaux français qui a lieu dans le Limousin, à Brest-Civière-en-Creuse, à 60 km de Limoges, et qui a lieu le 10 octobre. Voilà, donc pour préparer tous ces rendez-vous, il y a le débat de samedi, et il y a une le mercredi 6 octobre, à 18h30 à la manufacture des tabacs pour les personnes intéressées à partir dans ces différents forums sociaux et en discuter. Voilà, merci.
Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors, ce soir, nous avons convié un débat intitulé « Chômage, repenser l'indemnisation ». Pourquoi ce débat ? Les privatisations, les délocalisations, les licenciements, le démantèlement public. La précarité est en train de se généraliser, et qui dit précarité dit plusieurs passages obligés par la case chômage. Les chômeurs sont de plus en plus nombreux. Les chiffres qu'on nous présente périodiquement n'ont pas grand chose à voir avec la réalité. En ce qui concerne le nombre des chômeurs que les offres d'emploi qui seraient non pourvus. On peut estimer que le nombre de chômeurs en France il est au moins 4 millions. Ces chômeurs et chômeuses sont pour le plus grand nombre indemnisés. Quand ils ou elles sont indemnisés, mais elles le sont peu longtemps et souvent très mal. Ça n'a pas toujours été le cas. L'assurance chômage, on va revenir un petit peu, elle a vu le jour en 58. On peut dire que de 58 à 79, l'indemnisation des chômeurs, elle s'est améliorée. On peut souligner que parallèlement, pendant cette période, le sort des salariés s'est aussi amélioré. Et de 1982, c'est là qu'on a pris un virage, on va dire, libéral. On a reconsidéré la façon d'analyser les choses, tant en ce qui concerne les causes du chômage que le traitement à y apporter. Et bien, depuis 82, ça se fait. 82, c'est l'apparition des filières d'indemnisation. C'est-à-dire que les gens seront désormais indemnisés en fonction du temps où ils seront cotisés. C'est-à-dire que les gens les plus fragiles sont moins indemnisés que ceux qui sont plus stables dans l'emploi. En 92, c'est la décrépité. En 2000, alors là, on passe à une vitesse supérieure avec la refondation sociale du médecin. Le premier chantier, ça devrait être sort des chômeurs. Ça a déboulé sur la version 1 du PAR avec l'acteur 19 octobre 2000. Était prévu pour 3 ans, une convention qui était prévue 3 ans. En fait, 2 ans, les gens qui s'étaient autoproclamés compétents se sont rendus compte que ça ne marchait pas très bien. Ils ont encore revu les droits à la baisse et là, on tombe à l'accord du 23 décembre 2002. Le PAR, la deuxième loi du PAR qui est actuellement en vigueur, un système harcèlement institutionnalisé. Le 26 2003, ça a été le tour des annexes 8 et 10. Qui sont censés régler le sort des intermittents. Le chômage est souvent synonyme de misère. Il est donc urgent de repenser l'indemnisation du chômage du client. Il en passe beaucoup, notamment chez les soutiens du PAR. Ce prix qui pourrait couler. Alors il y a des gens qui se sont mis à la tâche de chercher des solutions. C'est le cas de la Fondation Copernic, qui a des propositions pour refonder l'indemnité de chômage. C'est le cas de la coordination des intermittents précaires d'Île-de-France. Les syndicats aussi ont leur point de vue sur l'action. Donc, alors, tout à l'heure, publié Voura, les travaux qui ont été faits par la Fondation Copernic, Laurent Guillotot, le modèle posé par la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Et Michel Bénaud nous donnera le point de vue de la CGT sur la question de l'indemnisation du chômage. Je laisse la parole, on va essayer de faire ces cours, de façon à ce que dans la salle tout le monde puisse un peu s'exprimer, et puis je demanderai aux gens de faire des interventions pas trop longues, quoi, pour qu'on puisse donner voilà, la salle. Alors, je passe tout de suite la parole à Pierre Millier.
Merci. Bon, j'ai dit trois fois très, très court, donc faire un effort. Alors, je vais commencer par une page pub, parce que comme il faut être court, on va tout dire, donc tout ce que vous ne saurez pas se trouver dans ce petit bouquin, qui s'appelle « Pour un Grenelle de l'inédit », et donc on a un certain exemplaire en vente ici, pour comme assez modique, même pour les journalistes. Bon, voilà. Pour faire court, moi je veux juste dire que la Fondation Copernic, c'est donc une association, qui réunit des syndicalistes, des associatifs, des chercheurs, des membres d'organisations politiques aussi, tous plutôt anti-libéraux, anti-capitalistes, enfin bon à peu près le profil de ce forum social. Cette note pour un de l'UNEDIC a été écrite sur une proposition des organisations de chômeurs, AC, APS, MSP, avec également la collaboration de la CGT chômeurs, avec également la participation de la Confédération CGT, qui a apporté aussi sa réflexion, la participation du groupe des 10 solidaires. Mais l'essentiel des propositions que je vais vous présenter là avait été construite avant le mouvement des chômeurs de 97, elle avait été construite pour la renégociation de l'UNEDIC de 96. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien parce que le fait que ce mouvement des chômeurs, que cette section ait été faite, est à mon avis très important parce que ça montre que c'est bien dans des cadres où à la fois on s'organise, on mène des luttes, en même temps on arrive à construire des contre-propositions. Et bon, ça peut prêter à tout, mais je trouve que c'est important de se rappeler ça, que c'est pas sorti de l'aide de trois chercheurs, mais que c'est bien parce qu'on est confronté à des problèmes concrets. Et qu'on a envie d'alimenter la mobilisation avec des propositions qu'on a contribué avec ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, le panel de gens qui ont participé à l'action. Bon, il y a des choses on a déjà, par exemple, avec Laurent, sur un certain nombre de choses, mais on avait ensemble construit cette première élaboration, donc il y a évidemment plein de choses qui se coupent, et avec les camarades de la CGT aussi. Donc ça montre qu'il y a possibilité sur cette question du chômage, avoir un front vraiment large. La preuve, c'est qu'on a réussi à construire un peu cette question. Alors, moi je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'indemnisation du chômage, Pierre vient de dire quelques éléments essentiels. Je vais juste redire deux ou trois choses. La première, c'est qu'il faut toujours se souvenir que l'indemnisation du chômage pour l'État en général, mais particulièrement pour le patronat, c'est toujours le terrain d'expérimentation des régressions sociales. Je donne juste des têtes de chapitre pour être rapide. Mais ça veut dire que ce qui se passe quand on traite les chômeurs et les caires est toujours l'avant-garde de la manière dont on va traiter les salles après. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que ceux qui penseraient que finalement c'est pas tellement grave l'affaire des reculés, c'est pas tellement grave les filières, c'est pas tellement grave le contrat, etc. Parce que c'est pour les chômeurs, et bien qu'ils se trompent. Parce qu'on a pu le vérifier dans l'histoire, ce qui se passe sur les chômeurs, on le retrouve toujours sur la totalité des salariés après. Si on reprenait en détail l'évolution du système de l'UNEDIC, au niveau de comment c'est pas démocratique, comment les droits ont régressé en plus, etc., etc., eh bien, c'est vraiment une preuve absolue. Alors, on a du mal, je vais toujours mettre en proposition et la mobilisation, parce que je ne vois pas comment on peut autrement. On sait que c'est très difficile d'organiser des mobilisations convergentes entre les chômeurs, les précaires, les salariés. Et pourtant, je crois vraiment il faut qu'on retravaille cette question parce que toutes les défauts qu'on a depuis des années il faudrait aller sans. Alors, deuxième chose que je voulais dire juste en petite introduction, c'est que effectivement l'expérimentation, l'UNEDIC est bien l'endroit où le patronat expérimente par exemple son affaire de constitution sociale. Et tout ce qu'on a vu là sur les modifications du Code du travail, ce qu'on voit aujourd'hui dans la gestion de la main-d'œuvre dans les entreprises, c'est-à-dire de plus en plus de contractifs, de contractualisation, de autonomisation, responsabilisation, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, vous pouvez décrire aussi bien ou mieux que moi, mise en concurrence des salariés les uns avec les autres, tout ça, on l'a connu, on le connaît dans le régime de l'indemnisation du chômage. Bon, je m'arrête là, mais on pourrait l'écrire. Alors, l'indemnisation aujourd'hui, elle a, pour le CONA, est assez indemniser le moins possible, le moins de gens possible, contrôler le plus possible pour contraindre le plus possible. Contraindre à quoi ? Bien contraindre tout simplement à accepter une norme d'emploi dégradée. Une norme d'emploi dégradée, ça veut dire contraindre à accepter la précarité, des salaires moins importants, le temps partiel imposé, les conditions de travail dégradées, etc., etc. Et donc, évidemment, l'affaire est assez simple. Hein. Si on paye les gens beaucoup quand ils sont au chômage, si on leur interdit de démissionner puis qu'ils conditionnent ou n'ont pas d'indemnisation, évidemment, ça, c'est une liberté qui est quand même plus relative ça oblige à reprendre n'importe quoi. On le voit avec la manière dont on est capable d'agir à peu près n'importe quoi. Donc je m'arrête sur les constats, hein, c'est juste pour qu'il y ait un petit cadre un peu général et à la SERP. Et donc pour un peu comment on... ce qui me semble qu'il faudrait revendiquer, je veux dire ça en 8 points. La première chose, c'est évidemment une mesure de stricte justice. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est rien de vivre pour tout le monde. Ça, c'est pas comme ça, du chapeau comme ça, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans la Constitution. Alors, bon, je ne suis pas une fanatique de la Constitution, c'est Laurent qui m'a convaincu au fur et à mesure qu'il absolument s'appuyait là-dessus, c'était plutôt un bon truc. Mais dans la Constitution, que chacun, enfin tout le monde a le devoir d'y aller, ça on peut débattre de cette affaire, mais chacun a le droit d'avoir un emploi, et s'il n'a pas d'emploi, il a le droit à des moyens convenables d'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de vie, le niveau des minima sociaux, le fait que plein de gens, parce que ce n'est pas des droits individuels, rien comme indemnisation, tout ça, ce sont des fautes contre la Constitution. Et je veux dire, le droit à l'indemnisation est un vrai droit politique, puisque c'est pas inscrit dans la Constitution. Donc on veut les moyens de vivre pour tout le monde. Quel niveau ? Dans la proposition qu'on a faite, on a mis le SMIC comme référence. Il y a un débat. Une partie des organisations chômeurs, AC par exemple, l'APS aussi, pense que le SMIC est le minimum. C'est-à-dire que si le SMIC est un salaire, c'est-à-dire qu'on prend, on dit qu'il ne faut pas partir de ce qui est possible, il faut partir de ce dont on a besoin. Si on pense que le SMIC c'est nécessaire, c'est le minimum pour vivre quand on a un boulot, c'est vraiment le minimum pour vivre quand on est un bien ou quand on n'en est pas du tout. Donc le SMIC. En même temps, on sait très bien que ça fait pas dans les salariés, que quand dans je veux dire, même pas seulement chez les salariés, je pense que partie des chômeurs aussi, mais ça peut partir du débat dans cette. Un certain nombre de gens disent, enfin c'est quand même pas normal, oui. Moi je bosse pas et moi j'ai que le SMIC et pourquoi il aurait autant. Et là, je crois qu'il y a une discussion à reprendre sur justement cette question, c'est-à-dire qu'on revendique quelque chose par rapport à, oui, on bosse, on a plus, ou est-ce qu'on par rapport à ce dont on a besoin. Il nous semble qu'il faut se baser sur ce qu'on a besoin pour vivre, et donc c'est le SMIC minimum. Deuxième point, on a besoin de sécurité. Alors là, je pense que le camarade de la CGT reprendra, parce que je crois vraiment un truc qui court, bon, je suis assez brève là-dessus, parce que je crois qu'on est très très urgent. De la sécurité. Et donc, nous, on a appelé ça une nouvelle sécurité économique et sociale. Évidemment, ça fait clin d'œil avec la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même chose. Quand il y a eu la mise en place de la sécurité sociale en 1945, ce que disait le programme du Conseil national de la résistance, dont on fêtait cette année le 60e anniversaire, c'est qu'il fallait mettre en place un plan complet de sécurité sociale. Et le plan complet de sécurité sociale, il aurait dû intégrer l'indemnisation chômage. Il ne l'a pas intégré pour plusieurs raisons, mais en probablement parce que justement, c'est clair pour tout le monde que mettre une indemnisation du chômage de haut niveau, contrôler les salariés, puisque c'était ça quand même le plan de sécurité sociale de 45, était évidemment un rapport de force très important par rapport à la manière dont on a géré la main d'œuvre. La question du contrôle des embauches, du contrôle du placement, a toujours été un enjeu pour le mouvement ouvrier. D'ailleurs, bon, on n'a pas le temps là, je donne des têtes de chapitre, mais on n'a pas. Enfin, aujourd'hui, c'est des services publics. Il y a eu d'autres époques où les syndicats ont revendiqué le contrôle du placement, par exemple. Parce que contrôler le placement, c'est contrôler le placement. Donc, cette question, on mérite, à mon avis, d'être revisitée. Donc, on veut la sécurité et on veut un droit qui sont des droits en continu. C'est-à-dire, pas aujourd'hui, des droits qui sont hachés avec on n'a plus de boulot. On a éventuellement droit à la CDI. Encore, pas tous, parce que j'ai à peu près entre 40 et 45% de droit à la CDI. Si, quand on fait la CDIC, ou si on n'y a pas, on peut éventuellement avoir droit aux minima sociaux comme l'allocation spécifique de solidarité. Mais pour ça, il ne faut pas avoir un conjoint qui gagne plus de, alors je parle encore en francs, donc c'est pas, enfin plus de 8000 balles par mois. Il faut avoir travaillé 5 ans dans les 10 ans. Pour le RMI, il faut avoir plus de 25 ans, ah, bon, etc., etc. Donc, ce sont des droits qui sont des droits individuels, ce n'est pas du continu de droit. Donc, on veut de la sécurité, une nouvelle sécurité économique et sociale, et donc construire un système qui fasse que, avec droit, qui soit des droits à la fois individuels mais dans un collectif, qui fasse que, et bien, quand il y a de la mobilité, qu'elle soit choisie ou pas, je vais revenir, on ait en tout cas une garantie de revenir. Alors le troisième point, c'est justement ça sur quoi je voulais insister, c'est donc une garantie de revenu avec droit et qui soit réellement un droit. C'est-à-dire pas tout ce qu'on est obligé d'aller quémander, comme un certain nombre de fois quand on va quémander les aides sociales dans les centres au CCAS ou des choses comme ça. Bien, une garantie contre la misère, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui ont effectivement une situation totalement catastrophique. Une garantie en entrée contre la dégradation des normes d'emploi, c'est-à-dire une garantie qui fasse qu'on peut refuser des boulots qui ne sont pas rémunérés comme on souhaiterait, qu'on peut refuser un travail précaire, qu'on peut refuser de se déplacer de je ne sais combien de kilomètres, qu'on peut refuser si le contenu du travail, si son utilité telle ne nous convient pas. Donc une garantie qui a la capacité de résister à la dégradation des normes d'emploi, mais aussi à la volonté du patronat. Et une garantie qui permet aussi je parlais d'utilité sociale, mais le boulot, c'est pas seulement gagner sa vie, c'est aussi à quoi ça sert ce que je fais. Je veux bien travailler dans telle boîte, mais je veux pas travailler dans telle autre. Donc, un vrai droit qui redonne de la capacité de choisir où on veut travailler ou pas, on a envie de travailler, évidemment. Donc ça, c'était mon troisième point, une garantie pro avec ou sans emploi, et qui soit un vrai droit, et évidemment un droit individuel. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, et on voit que c'est, de façon générale, c'est plus les femmes d'ailleurs qui sont pénalisées par cela. Les minima sociaux, en particulier l'ASS et le RMI, ne sont pas individuels, je le disais. Et donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas droit, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes en fin d'indemnisation assise, c'est dit que c'est un droit individuel, mais qui se retrouvent avec rien. Par exemple, dans les juillet, on n'avait pas remporté cette victoire encore assez fantastique, mais parce qu'il y a beaucoup de batailles et qu'un certain nombre de gens, tout le monde fou, ont dit ben, pourquoi on gagnera, hein, parce que les premiers procès, les premiers siers, ça pouvait paraître totalement incroyable. Moi, je n'aurais pas parié un centime sur la victoire de cette bataille, mais bon, je pense que c'est vraiment, vu la presse, on a eu bien raison de la mener et d'amener cela. Dans cette affaire des recalculés, quand le gouvernement nous disait mais il n'y a pas parce qu'à la fin de la CEDIC, eh bien, on doit toujours avoir quelque chose, ou le RMI, mais c'était complètement faux. Parce que justement, ce ne sont pas des droits individuels, et qu'on est en compte les ressources du foyer. Et que pour une société qui prétend que chacun doit pouvoir être autonome, mener sa vie, et donc que chacun est compte pour un individu, eh bien, complètement rétrograde, les droits ne soient pas individuels. Alors, mon cas, c'est la question de mobilité et de la discontinuité. J'insiste un petit peu là-dessus parce que je crois que ça, il y a un petit débat, enfin bon, je crois, en tout cas, parce qu'on a discuté pas mal avec des choses que racontaient les camarades intermittents. J'insiste deux minutes là-dessus. Pourquoi? Je crois qu'effectivement, on est dans un système aujourd'hui d'organisation de l'emploi qui est avec beaucoup de précarité, beaucoup de discontinuité. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse sens entre une mobilité choisie. Je pense que quiconque devrait avoir le droit de quitter son entreprise ou son administration ou son service et pouvoir aller travailler ailleurs en a besoin. Ça suppose, et c'est dans les positions qu'on a fait à Copernic, que l'indemnisation du chômage soit versée, y compris en cas de démission. C'est-à-dire que si on va ailleurs, on a droit à l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous démissionnez, pendant 4 mois, vous êtes puni. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous n'aviez pas le droit. Hein. Il faut être involontaire privé d'emploi pour pouvoir avoir droit aux ACDI. Au bout de 4 mois, on va revoir vos droits. Et si vous avez vraiment fait la preuve que vous avez cherché beaucoup, beaucoup du travail avec beaucoup, beaucoup d'énergie, on va vous redonner vos droits. Mais on ne vous les redonne pas. Donc cette question de l'indemnisation du chômage, y compris en cas de démission, c'est très important. Parce que ça, c'est redonner du rapport de force et de la capacité à choisir son itinéraire professionnel, donc à choisir ce qu'on veut faire, etc. Deuxième objet de débat très important dans les entreprises avec les salariés, effectivement moins, mais avec les salariés en tout cas, vous avez déjà essayé dans le débat en disant c'est normal que l'indemnisation du chômage soit versée, y compris en cas de démission. Eh bien, moi, je pense qu'il faut le faire. Parce que c'est la manière de dire on a le droit de choisir. Le patron a le droit de nous virer. Non, on n'a pas le droit de partir dans les mêmes conditions. C'est quand même, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça porte totalement hors de propos, utopiste, etc. Moi, je pense quand même que c'est extrêmement important de remener ce débat. Donc, ça, c'est la question de la mobilité choisie et il faut le droit à l'indemnisation. Et puis, il y a la question des indemnités qui nous est imposée. Et moi, je pense, en tout cas, c'est comme ça qu'on a construit les propositions de la Fondation Copernic, que la manière de choisir l'indemnisation du chômage doit agir, non seulement pour donner des droits à chacun, ça je l'ai dit, mais également d'être truite de manière pour dissuader du recours à la précarité, dissuader les entreprises du recours à la précarité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que quand elle n'est pas choisie, la discontinuité est terriblement destructrice. Alors, elle est destructrice pour l'individu, c'est-à-dire que quand on subit la précarité, pas la capacité de... Je veux dire, on voit bien quand ça se passe dans une entreprise, on sait avoir le temps de construire des liens avec les autres, avoir le temps de construire sa qualification, avoir le temps de trouver ses marques, y compris de pouvoir intervenir, de syndiquer, de s'organiser, d'intervenir sur les champs d'entreprise, bon, etc., etc. Quand dans des situations totalement précaires, on va le faire. Et je crois que cette manière qu'elle passe aujourd'hui, les entreprises, c'est planétaire, choisir la précarité est totalement destructeur pour les individus, encore une fois, quand elle n'est pas choisie, hein, totalement destructeur pour les individus, pour les collectifs, et laisse à la direction des entreprises et aux salaires les mains totalement libres sur la totalité des entreprises. Ce qui ne veut pas dire que si nous sommes capables qu'il n'y ait pas de précarité, on a pour autant la capacité d'influer beaucoup sur les choix des entreprises de l'administration. Mais si on est totalement précaire, on ne l'a plus du tout. Et moi, je pense que ça, c'est une question qui est tout importante. Alors, qu'est-ce qu'on dit par ça? C'est que l'indemnisation, elle doit reposer sur un mélange de fonds. On a dit qu'on voulait un système unifié entre tous les systèmes d'aujourd'hui, un mélange de fonds où les entreprises continuent de payer, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour exclusivement l'impôt. Alors, il y a d'autres pays que l'impôt, hein, qui les pays, par exemple, scandinaves, c'est que l'impôt qui paye l'indemnisation du chômage, la protection, etc. C'est une question, je dirais, d'histoire. Bon, moi, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas lâcher la peau de l'ours avant d'en avoir trouvé un autre. Non, ça ne va pas être ça la bonne histoire. Mais... En tout cas, il ne faut pas lâcher ce qu'on a avant d'avoir autre chose. Et comme je ne vois absolument pas la capacité d'intégrer la réforme fiscale d'une ampleur, parce que quand même, le budget de la protection sociale, c'est plus important que l'État, hein. Donc, le système aujourd'hui, tel qu'on connaît, du salaire en deux parties, c'est-à-dire le salaire qu'on touche, et puis la partie, parce qu'en fait, ça nous appartient, c'est la partie de la richesse qui est socialisée. Et donc, c'est, à mon avis, une partie plus importante de cette richesse socialisée qui doit être mise sur l'indemnisation du chômage. Et il faut que les entreprises qui ont recours à une précarité extrêmement importante, qui ont recours à des licenciements à répétition, soient pénalisées. C'est-à-dire que leur cotisation, enfin leur part sur l'indemnisation du chômage, soit quand. Alors là-dessus, on peut avoir un débat, mais moi, je pense trouver des moyens de dissuader du recours à la précarité. Bon, tout ça, évidemment, sans rapport de force, on n'a aucun sens. Ça, c'était un peu ce que je disais au début. Ça, c'était, bon, alors, le point suivant que je voulais dire, c'est que, donc, l'architecture d'un système, un système unifié, c'est-à-dire qu'on remettrait dans le même pot tout, hein, l'UNEDIC, les minima sociaux, donc un mélange État et, comment dire, et indemnisation chômage et régime paritaire d'aujourd'hui. Et nous voulons, c'est que ce soit fait dans le cadre, on a appelé ça d'une charte de service public, ce qu'il faudrait préciser. En tout cas, je ne pense pas que ce soit réellement la même chose que les maisons de l'emploi de Bordeaux. Il doit y avoir des différences, parce que les maisons de l'emploi de Bordeaux, elles ressemblent trop à du service public quand même. Enfin, en tout cas, elles ont l'air d'avoir de privatisation à l'intérieur. Donc, une charte de service public et qui soit très, très fortement démocratisée. Parce qu'un des grands problèmes aujourd'hui, quand même, du système d'indemnisation du chômage, c'est que quand le patronat est une ou deux organisations syndicales, je vous rappelle que dans tous nos systèmes de protection sociale aujourd'hui, et c'est comme ça depuis 58 pour l'UNEDIC, mais depuis 67 pour la CIU, avec une petite exception en 83, puis il n'y a pas eu d'élection, il n'y a jamais d'élection. C'est-à-dire que les gens qui siègent pour défendre nos intérêts, et c'est particulièrement vrai pour les chômeurs, puisque les chômeurs sont quand même assez peu syndiqués, un petit peu à la CGT, mais absolument ailleurs, je voudrais bien savoir, signé par exemple au niveau de la Confédération CFD les dernières conventions UNEDIC, ils étaient mandatés par qui? Et là, il y a une question démocratique de la société qui est absolument essentielle. On n'accepterait pas d'un... Alors, on accepte beaucoup de choses des politiques, hein, mais on accepte deux fois plus des représentants syndicaux dans l'institution paritaire. Ils ne sont mandatés à personne, ils ne rendent compte à personne, ils ne sont pas soumis à une quelconque alternance lors des élections dans laquelle ils seraient dire quel est le programme et de rendre compte de ce qu'ils ont fait. Alors, il y a quand même des sanctions, hein. Je veux dire, bon, pourtant, ils se mangent une gamelle. Les recalculer, c'est quand même une gamelle pour la société. Mais bon, ceci dit, ça va forcément changer d'avis. Donc, démocratiser, c'est très important. Et notre idée, c'est que dans ce système unifié, il devrait y avoir quatre collèges. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut que l'État soit. Parce que, bon, l'État, bien qu'il soit, c'est quand même le garde d'intérêt général, normalement en tout cas. Le patronat, on a pensé à l'époque, l'État peut être discuté. Donc, il valait mieux l'avoir dedans que dedans. Et donc, il valait mieux qu'il soit dedans. On pense qu'il faut des organisations syndicales, mais toutes les organisations syndicales, pas seulement les cinq confédérations plus représentatives. Hein, parce que je veux dire, tout ça, le syndicalisme a quand même beaucoup évolué. On l'a vu encore une fois avec les recalculs. Et des organisations, par exemple, comme la FSU, il y avait plein de gens qui venaient de l'éducation nationale, qui avaient droit à l'allocation pour perte d'emploi, qui avaient les mêmes problèmes que ceux qui venaient du privé et qui pourtant sont représentés. Bon, sans compter évidemment les camarades du groupe dédié qui sont précaires partout. Donc toutes les organisations syndicales et les organisations de chômeurs, parce qu'on pense qu'on n'est jamais si bien servi soi-même, et que les organisations de chasse, ça peut être associative ou elle. C'est pas du tout dérangeant qu'une même confédération syndicale, à la fois dans le collège des fédérations, parce qu'elle représente là les salariés, et le collège des organisations de chômeurs, parce que là, elle représente les intérêts des chômeurs. En tout cas, c'est une proposition qu'on donne à débattre. Conclure tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, il faudrait le financer. Hein, si on veut que tout le monde ait des droits, on va donner les propositions dans le détail pour garder dans le bouquin, mais pour revenir dans ça. Et si on veut qu'il y ait le SMIC pour tout le monde et qu'il y ait l'indemnisation avec des droits, ça veut dire des droits jusqu'à ce qu'on ait trouvé un boulot. Hein, c'est-à-dire quoi, ça veut dire qu'on met en l'air les fers, les durées, bon, etc. Plus cette mission, ça veut dire évidemment qu'il faut financer ça. Donc j'ai dit un petit peu comment on avait envie de financer. Mais pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est dans ce pays, il y a un espace, pas seulement partout, il y a un espèce de tabou, c'est que la répartition de la richesse est devenue intangible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de 60%, je crois qu'on est à 58% de la richesse produite qui est en salaire et salarialisé, et tout le reste va un petit peu en investissement et beaucoup en spéculation. Il y a 15 ans, il y avait 10 points de plus qui était la richesse distribuée appartenant à l'ensemble des salariés, enfin, au sens de la population, et donc on a perdu 10 points. Ces 10 points, il faut récupérer. Parce que, je dis que c'est intangible, c'est que le gouvernement de Lionel Jospin, par exemple, avait sorti un rapport sur le plein emploi, où il posait ça comme un postulat. La répartition de la richesse, c'est comme ça, c'est 60 ans. Tant qu'on fera, on n'a aucune possibilité ni de régler la question des retraites, ni de régler la question de la sécu, ni de régler la question de la formation professionnelle de manière satisfaisante, ni de régler l'indemnisation du chômage. Donc il y a une vraie règle sur la réappropriation de ce qui est notre collectif. Évidemment, tout ça est absolument contradictoire avec la GS et la constitution qu'on nous promet, parce que, évidemment, ça veut dire socialiser la richesse commune, et donc ne pas être dans les règles du marché qui régleraient tout, parce que là, on ne peut faire de ce type.
Bon alors, je ne sais pas si c'est le fan Constitution qui va parler, puisqu'il en a été question, mais c'est vrai qu'on est donc Laurent de la Fédération des intermittents et précaires d'Île-de-France. On a quand même ce petit avantage qu'il y a parfois des textes officiels qui sont supposés régir l'organisation de cette société. Quelques traces d'un certain égalitarisme, voire d'une certaine ambiance révolutionnaire, et en Constitution 93, dans cette phrase qui fixe des devoirs à la société vis-à-vis de chacun de ses ressortissants en déclarant que la société doit être des moyens d'existence, ça, tout ça. Effectivement, c'est pas en prenant au pied de la lettre des déclarations, aucune ou peu de traductions concrètes qu'on arrive aussi à porter ces contradictions. Est-ce que ça dénaturalise un tout petit peu la question qui est devenue quand même très, très naturelle maintenant on vit dans une société où on dit en gros qu'il ne faille pas de manger. C'est un peu comme ça que Jospin avait claqué la porte.
Qu'est-ce que tu racontes là?
Au moment des chômeurs, lorsqu'en 98, il a expliqué qu'il fallait vivre dans une société fondée sur le travail et pas sur l'assistance, on voit que cette idéologie du travail a quand même fait des progrès absolument gigantesques dans notre société, non seulement dans les têtes, mais dans les dispositifs concrets. Alors, pour venir à cette histoire de lutte des intermittents, bon, je ne reviens pas sur un certain épisode, mais en gros, cette lutte a démarrer jusqu'à fournir des contre-positions sur cette question de chômage, non pas tant à partir d'une logique d'ensemble, etc., mais à partir d'un événement particulier, qui était donc l'adoption du pic de juin 2003, qui venait comme ça parachever effectivement la refondation sociale lancée en 1999 sur son terrain le décisif, du moins c'était l'avis de Kessler, numéro 2 du MEDEF, lorsqu'il avait déclaré qu'en réseau part, ils avaient aussi la refondation sociale, parce qu'effectivement, commencer à régler le sort des chômeurs, des travailleurs pauvres et des salariés précaires, c'est réussir la refondation sociale. Donc là, en gros, c'est le dernier morceau un peu mutualisateur, qui offre un peu de garantie, etc., dans le régime de l'UNEDIC qui tombe avec les annexes dites annexes spectacle, les annexes 8 et 10. Et en plus, ces annexes-là, elles ont une popularité quand même qui a beaucoup d'importance politique dans un contexte de précarisation générale de l'emploi de longue durée, hein, depuis 25 ans. C'est que c'est les seules annexes qui permettent de garantir un revenu à travailleur à l'emploi discontinu. On n'est pas du tout dans le cas d'autres annexes du type l'annexe 4 des périmères qui comporte des délais de carence très longs où on ne touche pas d'allocation chômage, une espèce d'obligation de gêner les missions sans beaucoup de garanties. On n'est pas dans le cas de l'annexe 6 de l'UNEDIC. Dans l'UNEDIC, il y a 13 annexes, on pourrait unifier le système, mais il faut déjà voir à quel point il est monté, etc. On n'est pas non plus dans le statut des saisonniers qui garantit que très très peu de droits, mais dans un régime qui permet de, en gros, de toucher de l'argent légèrement employé pour beaucoup de gens, à partir du moment où ils ont fait un certain nombre d'heures et un certain nombre d'heures employées dans l'année. Il se trouve que ce protocole UNEDIC 23 juin casse ces mécanismes, casse tout un tas de points de repère qui permettaient justement de faire des projets professionnels, etc., de développer sa pratique professionnelle, intégrant la discontinuité comme une donnée de base avec laquelle on a à jongler, mais avec un minimum d'assurance derrière. Et le nouveau protocole introduit énormément d'aléas nouveaux, un mécanisme qui change fondamentalement, qu'avant on obtenait une année d'allocation en entrant dans le régime. Donc, lorsqu'on travaille durant l'année, soit on est employé, soit on obtient allocation. Alors que dans le nouveau modèle, c'est plus une durée de droit qu'on obtient, mais un capital de droit à vie de 233 jours, et qui s'avère être capital qui pourra durer très longtemps, avec la règle qui s'appelle celle du décalage. À chaque fois qu'on va travailler à nouveau, on aura un certain nombre de jours non indemnisés. Ce capital de jours indemnisés restera intact ou diminuera peu, et on va mettre 5 ou 6 ans à réouvrir des droits. Si à ce moment-là, on a un mauvais salaire de référence et qu'on a une allocation très faible, on peut rester longtemps, en gros, dans la situation précaire des chômeurs, c'est-à-dire inscrit au régime sans pouvoir toucher d'allocation. C'est ce qui se passe majoritairement pour les chômeurs. Alors ça marche comme le reste, hein, comme le reste des attaques là-dessus. On diminue la durée d'affiliation, donc les conditions sont plus à remplir. On modifie les modalités d'attribution d'allocs. En gros, ce système aboutit au résultat que plein de gens sont lourdés du régime. Soit on les transforme en saisonniers, justement, soit en intérimaires du point de vue administratif. Soit ils vont au régime général où ils n'ont pas de droit. Soit ils doivent postuler au RMI sans pour autant être assurés de l'avenir, etc. D'un côté, il y a ce fait-là. Et de l'autre côté, un certain nombre de gens parmi ceux qui travaillent le plus et la manière la plus régulière, etc., touchent des allocations plus importantes. C'est une vision qu'on pouvait faire dès juin 2003. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens viennent nous voir très surpris en disant « Ah, mais je touche plus d'allocations qu'avant, etc. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'argument, comme d'habitude, pour faire cette réforme, c'était « Il y a un énorme déficit causé par le régime. » Et c'est donc pour épurer le déficit qu'on va réformer ça. On va, comme dit la CFDT dans ces cas-là, sauver le régime. C'est l'expression qui a été employée par la CFDT depuis 1982, enfin, qu'ils ont pris ou participé à la décision à l'UNEDIC. Et on va faire des économies. Économies, on ne sait même pas si on aura. Pour l'instant, effectivement, on s'économise l'indemnisation des plus précaires, des intermittents. Et en revanche, on indemnise davantage ceux qui travaillent le plus déclarés, etc. Dans cette situation des contre-propositions, c'est de partir à la fois de ce qui était imposé par le nouveau protocole, le protocole qui s'applique en ce moment, et ce qui pouvait découler des pics d'emploi dans ces milieux, à savoir, par exemple, le nouveau modèle d'indemnisation du chômage salarié à l'emploi discontinu tel qu'il a élaboré, il ne vise pas à tout régler à partir des pratiques d'emploi donc discontinues et à rémunération variable. C'est-à-dire que dans ces annexes, on peut avoir un salaire extrêmement variable en fonction de l'emploi occupé à tel ou tel moment. Il est très fréquent d'avoir des gens qui sont communs, qui à un moment donné vont faire un boulot administratif ou technique. Donc d'essayer de maintenir un peu de tenir compte de cette diversité de situations, etc. Et en gros, ce modèle repropose des choses justement qui ne sont pas tellement de l'ordre de l'invocation de la Constitution comme coopérateur, mais plutôt dans une bonne vieille tradition de lutte ouvrière, celle du salaire garanti, qui est déjà une lutte tout à fait présente dans les années 60 et qui est à peu près ce qu'il y a là à tous les mouvements de chômage importants depuis. Ce n'est pas la manière dont le pas d'emploi ou pas qui doit décider de nos moyens d'existence. Bon, dans ce cadre-là, donc au lieu de partition générale, en partant de cette affaire concrète, un point qui est vraiment à observer, c'est que dans le statut des intermittents tel qu'il existe, en fait, il y a déjà une annualisation du temps de travail qui est tout à fait prise en compte, puisque ce qui est pris en compte, c'est qu'on ouvre des droits sur un nombre de 12 mois, avec une date d'anniversaire annuelle où on pense qu'à cette date-là, il faudra examiner les droits, etc. Par rapport à ça, il semblait ce qui est important, ce qu'on a vu dans le protocole actuel, c'est que tout repère concret était foutu en l'air par le protocole tel qu'il fonctionnait avec tous ses aléas, etc. Et donc on a cherché des repères un peu stables qui permettent d'angler avec tout ça. Donc une chose les plus marquantes de ce nouveau modèle, dont vous pouvez lire les détails sur le site web du tract que j'ai donné à la plupart de vous tout à l'heure, c'est entre autres d'instaurer une indemnité journalière calculée pas du tout selon les mêmes critères et qui en gros peut pas être inférieure à une notion nouvelle qui est le SMIC jour, en considérant que le SMIC jour comme un tantième du SMIC mensuel en fonction du nombre de jours par mois, de 28 les mois de février à 31 jours, un certain nombre de mois, etc. Et donc de partir en fait de cette annualisation du travail, comme c'est un peu abstrait et difficile à assumer, pour donner une dimension concrète de l'existence, la journée, avec en gros le principe qu'une journée non employée est une journée indemnisée pour quelqu'un qui fait un parcours de discontinuité de l'emploi. On sait très bien dans ces boulots-là, il n'y a pas nécessairement de jours fériés, etc. L'idée était de fixer un principe général qui inclut un maximum de situations concrètes. Il y a également une chose qui est un petit peu novatrice par rapport au schéma qui peut être proposé par des mouvements de chômeurs ou la fonte Copernic récemment, etc. C'est la notion de plafond de cumul. En fait, dans beaucoup des dispositifs alternatifs qui sont proposés, il y a bien évidemment une grosse insistance sur la nécessité de garantir un revenu mensuel ou quotidien, etc. Mais il y a souvent une énorme difficulté à articuler le salaire de l'emploi et le salaire social issu du chômage, du RMI, importe, etc., la partie non directement liée à l'emploi. C'est ce qu'il faut depuis 10 ans. On a eu, depuis la fin de la défaite des mouvements de chômeurs en 1998, toutes les mesures gouvernementales ont porté dessus. Ça a été la prime pour l'emploi, ça a été un certain nombre de mesures comme ça, des modifications du mécanisme appelé d'intérêt du RMI, etc. Toutes les mesures portent non seulement sur la des revenus type allocation, chômage, etc., mais sur la réarticulation entre, disons, la situation d'un salarié pauvre, discontinu ou pas, qui dépend de ses emplois, ce qui va dépendre de la protection sociale par le biais du chômage ou du RMI. On en voit encore un exemple aujourd'hui, lorsqu'on transforme l'allocation RMI, plus exactement, en subvention à l'employeur pour créer un RMA. Mais y compris la prime pour l'emploi, comme ça, instauré par Josse. Au lieu de donner une prime de fin d'année aux chômeurs qui la réclamaient, ont décidé, donc, puisque seul le travail vaut droit, l'emploi vaut droit, etc., de créer une prime pour l'emploi pour laquelle il faut avoir travaillé l'équivalent de 0,4 SMIC par mois sur l'année, etc. Donc si on a bossé moins d'un quart de temps au SMIC sur l'année, on touche pas cette prime pour l'emploi, parce qu'on est un chômeur, un petit responsable de son sort, au lieu de s'être correctement activé. Bon, on reviendra peut-être dans la discussion sur le nouveau modèle. Actuellement, ce qu'on est en train d'essayer de faire, justement, c'est de casser un peu cette boîte noire de l'UNEDIC, puisqu'on a réclamé au gouvernement une expertise contradictoire et indépendante des données du fonds de l'UNEDIC, parce que la conclusion à laquelle on arrive, et qui diffère peut-être de ce qui se dit dans beaucoup de réunions, disons, de gauche, c'est pas tant que l'UNEDIC finance les patrons, que c'est un système d'aide aux patrons, etc. Chose qui est assez évidente à dire et à voir, c'est qu'au-delà de ça, cet institut comme d'autres a pour rôle de financer la production flexible, de fait, et pas seulement les salariés. On voit bien, malgré tout, qu'il y a quelques milliards destinés aux allocataires, et que là-dessus, c'est une question qui peut être traitée par des partenaires sociaux qui n'y comprennent rien, ne veulent rien en savoir, ou sont eux-mêmes parmi les plus gros employeurs, en fait, de travailleurs précaires, par le biais des comités d'entreprise et de choses. Pour donner des exemples de ces contradictions syndicales, et c'est peut-être pas... mais, par exemple, le comité d'entreprise d'EDF, donc tenu par la CGT, est le plus gros employeur de cette France. On voit qu'on est dans des contradictions du salaire qui sont très, très... très développés, très, très, très diffusés, qui sont dans toute la société aussi. Et par rapport à ça, il y a seulement besoin d'inventer de nouvelles choses, parce que visiblement, il y a même eu sur ce front, il y a certaines scléroses, de dynamique syndicale, c'est le moins qu'on puisse dire, ou intérêt syndical pour ces questions depuis 25 ou 30 ans.
donc sur... Moi, je repartirais sur l'un de ce que le terme de sécurité sociale professionnelle qui a été donné tout à l'heure. Bon, d'emblée, ouais, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des contradictions. Les textes, ils sont ce qu'ils sont, et la CGT applique les textes tels qu'ils existent. On n'en est pas vraiment content pour autant. Après, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait pour se sortir des contradictions. Être dans les contradictions, c'est pas forcément ça qui est important. Après, c'est que, comment on sort. Et la proposition donc pour s'en sortir, c'est le statut du travail salarié. Qu'est-ce que la CGT entend par le statut du travail salarié? C'est avant tout des droits qui tournent, alors pour certains, autour de l'emploi lui-même. Ils tournent tous autour de l'emploi. C'est par exemple le droit d'emploi à partir du moment où on a eu son premier emploi. Droit au maintien d'emploi, droit au salaire, salaire sur la base du temps plein à durée indéterminée pour élever ou sous statut, enfin, mais temps plein à durée indéterminée. C'est le socle sur lequel on construit ce travail salarié. Ce statut, ce temps plein, cette voie de cet emploi coule un certain nombre de droits. Un des principaux qu'on a vu sortir récemment, c'est le droit à la formation. Soit la formation telle qu'on peut le concevoir, c'est bien évident que tout ce que je peux dire ce soir, c'est quelque chose qui est mis en débat, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. C'est quelque chose que la CGT a travaillé, qu'elle soumet au débat salarié. La formation, une formation tout au long de la vie, 10% du temps de travail consacré à la formation, transférable selon les employeurs. Voilà, en tout cas, deux points sur l'emploi. Alors, cela est bien évidemment accompagné d'un certain nombre d'autres droits. On pense au droit d'expression, par exemple, le droit d'expression dans l'entreprise, qui est illustré par un autre droit qui est appris dans chez les cadres de la CGT, à l'UGICT particulièrement, et qui est le droit de refus. Alors ce droit de refus, l'UGICT conçoit sur un cadre, a le droit de refuser tout ordre contraire à sa déontologie, ou ça, je ne sais plus quels sont les termes exacts qu'on a utilisés. Un exemple, ça a été à Marseille sur la privatisation de la Poste, où cadres ont réussi à obtenir de ne pas simplement participer à la privatisation de leurs services. Je suis désolé, devant un micro, c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement. Bon, je m'aide un petit peu d'un papier et puis, de ce que j'ai pu gratter avant. Voilà, je suis désolé. Je pourrais décliner. Bon, un autre aspect, c'est le droit à l'intégrité physique. Un des gros problèmes qu'on a dans les entreprises, en ce moment, on a d'énormes soucis sur la souffrance morale, le harcèlement. Et il nous semble que doit faire partie intégrante du droit du salarié, un droit à sa santé et au respect de son intégrité physique. Cela doit être assuré à la fois, par exemple, par la médecine du travail, où on voit bien les qu'il y a en ce moment, mais également par tous les dispositifs PMI et les dispositifs d'État de sécurité sociale qui peuvent exister. Et cela en relation également avec le travail. Voilà, j'espère avancer un petit peu l'esprit dans lequel la CGT travaillait par rapport à ce statut du salarié. Bon, j'espère pouvoir le guider peut-être plus directement en répondant à des questions. Merci. D'accord.
On va peut-être passer aux questions maintenant. À moins que. Ouais. Ah non. Allez, non, mais la parole est à la. Voilà, là-bas, il y a une question.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu que vous interlocuteur ce soir, vous me parliez un petit peu du plan que vous savez,
Bon, moi, j'en ai écho par l'intermédiaire de M. Barreau. Donc, si vous pouvez me donner un peu d'infos à ce niveau-là.
Le plan.
Le contrat d'avenir. Le contrat d'avenir, hein, c'est ça?
Le contrat d'activité, le plan de cohésion sociale à Borloo, c'est ça? Oui, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Bon, Laurent.
Il y a sûrement des gens dans la salle qui en savent davantage, précisément que moi, sur si j'ai bien compris, de la quadruple guillemets, la cohésion sociale de notre ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Le volet emploi, je ne sais pas, sur le contrat d'avenir, non, il n'y a pas de gens. Bon, en gros, c'est ce qui devrait remplacer par le formule du traitement social, du chômage actuel, du type CES, CEC, etc. C'est un machin qui existe aussi parce qu'ils n'arrivent pas trop à lancer l'AMA à grande vitesse. Il s'agirait d'un contrat payé évidemment au SMICAR, dont les charges patronales seraient prises en charge par les DTE, etc., comme d'habitude, pour je ne sais quelle somme, mais certainement aux alentours de 90% du montant. Les salariés qui passent par là auraient donc entre 26 et 30 heures à effectuer, payer 26, puisque les heures en plus sont qualifiées de forcion, alors on ne sait pas exactement. Comme j'ai vu des stages de formation, du travail de vigne et autres trucs très formateurs qui permettent quand même d'économiser des heures et du travail saisonnier, on verra ce que ça donne. Borloo qui a montré que le gouvernement n'est pas si dégueulasse et libéral qu'on le dit, mais quand même du traitement social, réinjecte un peu de parmi les chômeurs par le biais des boulots ou trucs, qui a quand même un volet social et je sais pas, gaullisme social, chrétien, machin, keynésien presque, voilà. La main gauche, il y a un peu de mou de la rigidité budgétaire, tout ça, puisqu'on va refaire des emplois et que les gouvernements marchent comme il faut, quoi.
On a eu au moment du conflit du printemps sur le projet de prévention de la délinquance des contacts avec le général sur comment allait-il appliquer le. Alors à l'époque, le nouveau conseil général venait d'être élu, la réponse a été on va voir. Et à l'époque, le Parti socialiste disait nous n'appliquerons pas. Eh ben, on attend toujours, on n'a rien qui voit, on n'a rien venir du Conseil général. Pour autant, les conventions sont prêtes, les organisations sont prêtes, puisque le Conseil général se reterritorialise. Il suffit d'attendre, à notre avis, la nouvelle, mais il vient finir par se créer. Alors après, comment ils feront, ça revient, mais le contrat d'activité n'a pas changé grand-chose. Le Conseil ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur les cotisations qui seront prises en charge ou pas, sur la formation, et on voit ce que ça a donné sur les contrats de solidarité ou sur les RMI, hein, les formations, avec le nombre de sorties de dispositifs assez important en fait. Donc sur le contrat d'activité, les textes sont là, après maintenant ça prendra vraiment de la manière dont ça sera appliqué localement. Et ça, c'est un enjeu politique local, ça.
D'autres questions là-bas?
Oui, c'est seulement une formation. Nous avons assez rencontré le Conseil général pendant les vacances. Et on leur a posé la question à Robert sur le RMA. Et il nous a dit la chose suivante, il nous a dit: nous appliquerons le RMA que s'il y a des gens qui le demandent. Voilà.
Il n'y a plus qu'à faire des manifs.
On va aller le RMA.
Oui, je voudrais interpeller nos interlocuteurs par rapport à ce qui a été exposé sur l'indemnisation. Alors, le rapport qui sera là, on essaiera de la réponse dans de la rue, mais pour l'instant c'est un peu les partis politiques qui décident. Il y a eu des élections, beaucoup de régions ne sont pas à gauche. Vous avez dit que dans la région Copernic, hein, pas mal de personnalités viennent et travaillent pour faire des propositions, notamment personnes de partis politiques. Donc aujourd'hui, par rapport à des propositions qui sont même proposées sur papier, Claire, tu faisais référence à ce brin qui est paru, comment les choses pensent, comment la concrétisation de ces propositions avance, notamment par rapport à une gauche qui n'est plus une annonce aujourd'hui, et comment des programmes de gauche vont pouvoir, je dirais, ça en compte dans des futurs systèmes de mobilisation. La question est...
La réponse d'élu.
Oui, la question est très claire. La REC... non, je cherche que tout le monde pourrait bien. Non, le problème, c'est que on est dans une situation qui est un peu particulière en ce moment. C'est que on a effectivement un gouvernement. Alors, je vais revenir après sur les projets. Bon, parce que on a un gouvernement de droite qui, à mon avis, gère plusieurs feux. Il y a la version Sarkozy et la version Borloo. Mais probablement, ça peut se compléter bien. Hein, c'est la main droite, la main gauche, comme disait Bourdieu. Et puis on a 20 régions ou 21, ou combien, qui sont réputées être à gauche bon. Et qui en même temps sont à gauche, comment dire, sont prétendument contre la centralisation, en tout cas c'est ce qu'on dit dans leur campagne électorale, la décentralisation version Raffarin, et donc n'ont pas envie de prendre des responsabilités qui sont aujourd'hui celles de l'État, y compris pour faire des démonstrations différentes. Donc on est dans une situation politique qui est un peu compliquée. Enfin, je dis là, je change de casquette, je suis aussi élue au Conseil régional d'Île-de-France. Et c'est vrai que, bon, par exemple, on discute sur... il y avait une proposition PS qui est sur les emplois de tremplin. Je ne sais pas si c'est votre région où ils vont mettre ça en place. L'affaire est assez compliquée parce que Borloo, qui est assez fin, a compris et a envie de conventionner avec la certaine région pour créer ces emplois qui sont des emplois, à mon avis, pas vraiment... Enfin, c'est de l'emploi jeune en dessous, quoi. Donc, c'est pas vraiment... Alors, comment les propositions qu'on fait peuvent progresser dans les partis politiques tels qu'ils, enfin, de la gauche bon. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que ces propositions ne peuvent pas progresser, c'était ma conclusion sur la question du partage de richesses, ne peuvent pas progresser chez des gens qui n'ont pas décidé de rompre avec le du tout marchand, du postulat de la répartition de la valeur, la production de la valeur. C'est-à-dire que, pour être clair, le Parti Socialiste, s'il continue dans ses programmes à avoir les mêmes, ne peut absolument pas prendre en compte. Bon, ils peuvent prendre en compte certaines choses. Ils auraient pu, quand le mouvement des chômeurs en 1997-1998, l'exigence qu'on a portée, on leur en rappelait, qui était de, à l'époque de 500 francs d'augmentation des minima sociaux, leur réponse en contre, c'était pas une question budgétaire, parce que ça coûtait pas énormément d'argent, je crois qu'à l'époque on avait quantifié 1 milliard, je crois, ce qui n'était pas énorme. La réponse de Jospin, c'était très clair, je ne veux pas mettre ça en concurrence, pas avec le SMIC d'ailleurs à l'époque, avec le 2000, qui décrivait le type de loi, hein, c'est-à-dire un truc qui est assez proche de ce que fait Blair en Grande-Bretagne. Donc là, on a un vrai problème, à la fois sur les questions budgétaires et sur les questions de type de développement, ils sont finalement pas tellement différents de Béraud ou même, voire pire. Alors maintenant, les autres, de la gauche, on pourrait dire, je crois qu'il y a un accord assez... bon, alors, je ne sais pas, je ne sais plus très bien où ils sont les Verts. C'est, en plus, on sait, à part qu'on s'est diversifié, je ne sais pas, il y a peut-être des Verts pourrait nous éclairer sur ce cela. En tout cas, dans la station Copernic, il y a des camarades d'Hiver, des camarades de la LCR, il y a même quelques socialistes d'ailleurs, des institutions en général, hein, la Constitution. Oh, tu m'avais peur tout à l'heure quand tu as dit je ne mets plus la Constitution, mais je venais de conclure sur la Constitution, j'ai eu très peur. Mais non, la Constitution de 1793. parce qu'il faut plus se méfier, quoi, comment. Mais donc, c'est, je pense qu'elle progresse, mais les règles que je montre tout à l'heure, sur la question civique, sur la question de la démission, même chez les militants antagonistes, altermondialistes, etc., c'est pas évident. C'est-à-dire que cette idée qu'il faut garantir un droit au revenu, des possibilités de choisir ses propres professionnels, de formation, d'emploi, etc., c'est pas évident du tout. Sans parler du débat qu'il y a quelquefois entre nous sur est-ce que la continuité est, est une donnée ou est-ce qu'elle doit être combattue. Hein, qui est, moi, je pense plutôt qu'elle doit être combattue, que ce n'est pas une donnée incontournable, même si c'est aujourd'hui la stratégie du coup, pour certaines professions. De façon générale, dans l'automobile, Peugeot, Renault utilise des intérimaires toute l'année, c'est une donnée stratégie, mais ce n'est pas une donnée liée, à mon avis, au mode de production. Ça pourrait être réalisé autrement. On n'a pas le rapport de force pour là, mais ça vaut. Et donc, je vois que les propositions qu'on a faites, elles sont à peu près liées, mais on retourne sur la question du rapport de force, c'est-à-dire. Il faudrait une force politique à gauche de la gauche, enfin je pense, à gauche du socialiste en tout cas, pour arriver à imposer ce genre ou un moment où est un mouvement social important, parce que c'est quand même des propositions qui prennent de front comme sociolibéraux, c'est clair. Pas sûr d'avoir répondu à la question.
Moi, je veux bien proposer un autre bout de réponse. Là, je pense que l'intérêt de la décentralisation qui a lieu quand même, du point de vue des mouvements sociaux, bien avant les décentralisations institutionnelles des années 80 ou celles de je veux dire, les coordinations nationales chez les étudiants, ça a commencé à exister dès les années 70, où un certain nombre de villes en lutte en cause le fait que les choses soient décidées par l'appareil parisien, de partis ou de syndicats, etc. C'est un truc qu'on a retrouvé cycliquement. Maintenant, on sait, depuis 95, c'est archi-vérifié, qu'en général, les grosses mobilisations ne seront pas nécessairement pour centre en termes de nombre et d'actes, enfin, bon, des endroits de Paris. Ce qui est sûr, c'est que, prenant simplement l'exemple de l'attribution, de la gestion du RMI maintenant au département plutôt qu'au préfet, comme cela aujourd'hui, la question va se poser dans tout un tas de départements comme celui de Paris, celui-ci, etc., et un certain nombre de départements, effectivement, de gauche, par exemple, simplement de comment quel département peut maintenir l'interdiction RMI au moins de 25 ans et pourquoi ce département, si l'État central ne le fait pas, ne sera amené à créer pour les moins de 25 ans de son territoire, au sein de son territoire, etc., une forme de revenus qui vienne pallier l'acte de RMI, pour prendre les choses concrètement. Il en est même sur la question des transferts de très prestigieuses et très riches régions françaises, Île-de-France, qui sont en retard, bien qu'étant gérées à gauche depuis longtemps, sont en retard, y compris sur des régions qui étaient dites à droite et qui avaient instauré des formes de gratuité ou de tarification sociale sur les transports. L'intérêt de cette décentralisation, c'est qu'aussi l'État est plus près et que ce Jospin perché sur son casier de jacobin de la centrale refusant 1500 francs aux chômeurs, il va être maintenant des présidents de conseils généraux partout, plus facile à interpeller localement et plus facile à identifier, à faire plier, etc., que des premiers ministres et des choses comme ça. On verra bien ce que ça va devenir, mais il y a un certain endroit, etc., où on peut faire quand même des diagnostics sur ce que vont devenir les luttes sur les droits sociaux en termes locaux.
Ce que je voudrais juste répondre sur le rapport de force, les retraites, il y a eu 3 millions de personnes dans les rues, on n'a pas gagné. Qu'est-ce qui a manqué? L'analyse qu'on fait à la CGT, c'est qu'il nous a manqué 1 million de salariés dans les rues. Il nous a manqué des salariés qui aujourd'hui ne sont pas syndiqués. Tous les salariés pouvaient peser sur l'outil de travail. C'est ceux-là qui ont manqué. Donc, je sais pour lequel est le plus dur, faire 15 000 syndiqués ou créer une force à la gauche de la gauche. Mais CGT, en ce qui la concerne, sur son champ syndical, elle, nous, on considère que là où il faut aller, c'est vers la syndicalisation des salariés. Quand c'est dans ce sens qu'on pousse, et on y va. Mais en rapport de force, nous, c'est construit.
Moi, je suis assis pour fromage dessert.
Mais Augustin Grosdoigt, des Verts de Loire-Atlantique. Alors, à interpeller les Verts, je ne vais pas répondre au nom des Verts, pour mon nom personnel. Et encore, je vais pas répondre aux questions techniques que vous avez. Techniques. C'est la question que vous avez abordée, parce que je suis moins spécialiste de ce genre de questions. Mais je voudrais une question de méthode. Alors, je voudrais dire que, comme je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de construire une force politique à gauche de la gauche. Tout à fait d'accord aussi pour qualifier comme elle le Parti Socialiste et les impasses dans lesquelles la gauche plurielle nous a entraînés en 2000 et 2002. Et je voudrais aussi souligner la nécessité de créer une force qui nous permette de rééquilibrer la partition capital-travail qui est au détriment du travail, comme elle l'a rappelé depuis 10 ans, au-delà de 10%. Mais la question de la méthode que je voudrais soulever, je crois que de ce point de vue-là, le débat qui a lieu ce soir paraît extrêmement important parce que, bon, si on veut faire face aux nécessités politiques globales, ce n'est pas les partis tout seuls qui construiront l'alternative et encore moins qui les feront avec. C'est bien l'ensemble du mouvement social, des mouvements sociaux si on veut, qui les construiront, c'est-à-dire toutes les organisations qui sont parties prenantes de ces objectifs. Et je crois qu'il y a nécessité à ce que tout le monde, partis politiques qui sont décidés comme organisations syndicales, associations de chômeurs, etc., pour créer les conditions politiques qui nous permettent donc, de formaliser au niveau de l'exercice du pouvoir d'État les rapports de force qu'on devra être créés ailleurs, et notamment, comme vient de le camarade de la CGT, en arrivant à ce que les travailleurs se resyndicalisent fortement.
Bonjour, Olivier, de la coordination des intermédiaires précaires de l'Euro-Atlantique, membre de la coordination nationale, dont fait partie également la CIPIDF, président Laurent. Ma question était plus dans le sens concret de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à dans toutes ces actes. Alors, au-delà du fait que je suis un peu, quand j'entends parler de la CGT, 3 millions de personnes dans la rue pour les retraites, parce que peut-être que je me trompe, mais peut être défectueuse, mais il me semble même souvenir qu'on n'a jamais mis 3 millions de personnes dans le monde, mais plutôt 1,5 million à peu près de ce qui avait été, je crois, au plus fort au moment des retraites. Et il me semble me souvenir que la CGT avait annoncé 750 personnes. Donc, en ça, je me dis assez débit à ça, c'est 18 millions qu'il faut en mettre. Alors, c'est quand même vachement plus. Enfin, si on ne sait pas. Mais peut-être que vous me démentez. Donc, au-delà de là, c'est de savoir effectivement comment est-ce qu'on établit ce rapport de force pour faire en sorte, face à un gouvernement qui a l'air d'être un peu dur de la feuille, voire autiste à un niveau. Bien qu'aujourd'hui, les mobilisations, ça fait un moment qu'elles réunissent plus grand de monde, prend que ce système qui maintient bien les gens et en met de plus en plus dans la précarité ne favorise pas le fait qu'à un moment donné on puisse se mobiliser, sortir de chez soi, qu'on baisse les bras avec une forme d'alité. Je sais qu'effectivement, la proposition de nouveaux modèles d'indemnisation chômage qui a été faite par la coordination des intermittents et précaires me semble un outil des plus conséquents et que j'aimerais bien voir repris au-delà de ce mouvement-là, étudier un petit peu et porter un petit peu plus. J'aurais bien aimé que éventuellement peut-être Laurent nous en dise un petit peu sur ce qui pourrait donner aujourd'hui à l'heure actuelle arriver à dénoncer un petit peu ces arguments massifs qui à chaque fois sont des déficits assez conséquents pour amener des réformes. Donc on a parlé de 128 millions pour ce qui était du déficit sur les activités 10. À l'actuel, je crois savoir que demande a été faite de l'Inédit d'avoir les chiffres. On ne les a toujours pas. Comment faire pour retrait ces arguments massifs de déficit à l'heure actuelle?
Oui,
l'histoire du déficit, il faut reposer le problème. On a dit qu'un déficit cyclique, ok, cycliquement, pour faire des réformes, il n'y a plus d'argent, il faut sauver l'institution. Lorsque la campagne gouvernementale sur la réforme des annexes s'est faite, le chiffre a été cité, 820 millions de sites annuels dus aux intermittents du spectacle. Alors ce chiffre ne prenait pas en compte du tout les cotisations de tous les salariés du secteur, donc il pouvait être divisé par deux. Et en plus, la nation d'Avignon en 2003 a démontré que le chiffre, évidemment, n'avait pas de sens par rapport aux emplois et aux activités induites dont on ne sait pas discerner la quantité, etc., par le biais des cotisations au secteur, l'annulation du Festival d'Avignon. Selon les commerçants, coûtait aussi cher que le déficit revendiqué par le MEDEF, FALDIC, etc. C'est, de toute façon, il s'agit de fictions comptables qui sont assez peu descriptives de la réalité. Cette histoire de déficit a moins un sens, c'est que on agite à chaque fois contre nous argument qui est incontestable. Oui, les protections sont faites pour être déficitaires. L'école, c'est déficitaire. L'hôpital, c'est déficitaire. Sauf si c'est qu'à engraisser les laboratoires pharmaceutiques et je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de manières de compter qui sont un petit peu étranges. Maintenant, c'est vrai que la difficulté dans le... La difficulté, ça revient à un débat qui était posé vraiment bloqué par Claire sur la discontinuité. C'est que d'une certaine manière, ce qu'on paye ou pas aux chômeurs, c'est pas le fait d'être membre de la société d'un point de vue actif, c'est le fait d'être membre d'une société productive. Donc, en fait, d'incarner une disponibilité productive. Soit ça, c'est reconnu, le chômeur est reconnu comme un travailleur disponible, etc., que cette disponibilité soit attestée par une référence plus ou moins fréquente dans l'emploi ou pas. Il n'y a pas que des arguments humanistes, mais des arguments un petit peu un minimum conceptuel sur la manière dont fonctionne l'économie, on est sans arrêt disponible. Je veux dire, le chômeur fournit une information là, sur ce que sont les emplois existants. Par exemple, certes, la démission vaut a priori 4 mois sans allocation, il n'empêche que le motif d'émission actuellement augmente dans les motifs d'inscription à l'UPE. De manière tout à fait contradictoire avec ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire, ça veut dire se priver de revenus, etc. Bon, maintenant, les perspectives aujourd'hui, il y a évidemment ces histoires d'expertise collective. Pour l'instant, le gouvernement a nommé par le truchement ministère de la culture des experts sectoriels sur divers trucs, la production culturelle, éventuellement la question de restreindre le champ d'application de l'accord concernant les gens du spectacle. Alors, leur ambition s'est divisée entre artistes et techniciens, reconnaîtrait je ne sais qui, je ne sais comment, et les autres, les techniciens, seraient plus ou moins voués à devenir des intérimaires, donc à moins de garanties, etc. etc. Bon, il y a un travail de fond qui est fait là-dessus, et une des hypothèses les plus fortes, c'est d'arriver à montrer à quoi sert effectivement l'UNEDIC, mais pas en termes de dénonciation. Quel est le rôle productif de l'UNEDIC dans simplement le fait d'entretenir, même très mal, une fraction de la main d'œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire d'entretenir cette disponibilité de la main-d'œuvre, même selon des critères, etc., etc. Quel rôle productif ça vient avoir? Parce que il faut arriver à comprendre à un moment donné que derrière le déficit, il y a l'investissement nécessaire d'une société. Là, on peut tout à fait contester à quoi, comment, etc., etc. Mais il faut déjà commencer par renverser le problème. Dans les têtes. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu tellement à la question. Des perspectives. À part ça, c'est vrai que les mobilisations sont dans un régime de base concrète. Une des seules choses qu'on puisse peut-être tabler au niveau local, c'est cette espèce de disproportion entre un pouvoir central, donc de droit, fédéral, machin, supérieur, durée 3 ans, et une gauche absolument pourvue de programme. Je veux dire, le Parti Socialiste l'avait incliné nationalement. Je crois que la même, c'était. On se reverra dans un an et demi, on annoncera un programme, etc. Je pense que le programme, il faut l'inscrire coup de pied au cul sur leurs élus locaux, sur la question des transports, de lever l'interdiction du RMI au moins de 25 ans, d'un contrôle actif sur les mesures pour revenir à projet Borloo. Le projet Borloo est tout important pour l'ambiance, encore une fois, de culpabilisation des chômeurs. Les mesures de renforcement du contrôle des chômeurs, etc., qui font que plein de gens sont chômeurs découragés avant même d'avoir été radés. On n'a pas de droit, on va avoir des demandes d'aller mettre un doigt dans cette machine, etc., que les gens vont plus à leur convoque, se sortir, y compris pour être obligé d'occuper un emploi de 35 heures payé 26, comme sera le cas dans ce machin. Par rapport à ça, il y a une forme d'autodéfense sociale, d'organisation collective locale, tout là, vis-à-vis desquels il sera nécessaire d'interpeller les élus, spécialement les élus de gauche, pour qu'effectivement, ils soient contraints de se déterminer un minimum sur des choses plus concrètes que leurs problèmes d'écurie, de strapontin et de marketing.
Bonjour, Liliane, ex du mouvement chômage sur Nantes. Je voudrais vous faire une remarque. Je ne crois pas que le syndicalisme soit la seule réponse. Je crois que nous sommes aussi nombreux à ne pas être syndiqués et pourtant nous voir régulièrement. Voilà tout ce que je voulais.
Je vais me présenter, Philippe Gauthier du syndicat des musiciens CGT. Enfin bon, disons le spectacle, je dis syndicat des musiciens, bêtement parce que je suis musicien. C'est un peu compliqué parce que c'est difficile entre d'une part répéter des choses qui ont l'air des évidences pour tous, et puis projeter. Pour essayer d'avoir un horizon. Quand même, je vais commencer par répéter des choses qui pourtant ont l'air d'évidentes pour tout le monde. Premièrement, l'image de masse est un choix de notre société. On a tant de décennies de chômage de masse comme on vit, si ce n'est pas un choix de la société. Et donc, c'est notamment une des premières bases à poser, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est imposé à toute une partie de travailleurs, même si ça peut paraître paradoxal de les appeler comme ça, mais moi je continue à le faire. Et que donc, si la société soit là, c'est cette société de déterminer comment elle fait pour que cette partie de la population puisse subvenir à ses besoins. Et je trouve que la référence aux besoins des gens est fondamentale. Deuxième évidence, je suis désolé, l'attaque qui sont subies année après année sur l'indemnisation des chômeurs sont peut-être des expérimentations des têtes de pont, mais ça fait partie des attaques globales contre tout ce qui est système outil de protection sociale, contre tout ce qui est actif. Et en cela, s'il y a une particularité à cette question-là, il y a aussi quand même, il faut les rattacher au cas général, c'est-à-dire de l'afflux, de l'assurance, notamment. Puis, donc, là je veux venir sur un point où, sur les différentes interventions, il y a un petit peu de divergence, c'est sur ce qu'on appelle, suivant le cas, la précarité ou la discontinuité. En tant que salarié du spectacle, la précarité, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le système d'assurance chômage est mis en place, tous les salariés du spectacle n'étaient pas qu'à. Et loin de. Et que par exemple, si on veut comparer la situation de pays étrangers, par exemple, pour être technicien dans une salle de spectacle, c'est un métier qui demande une qualification tout de même assez poussée. Et donc, ce qui fait qu'en France, dans les salles où on diffuse des spectacles, on prend des précaires, on prend congé, pas obligatoirement le cas à l'étranger, c'est-à-dire que à conditions socio-économiques comparables, les gens ne sont pas précaires. Donc, pour prendre le cas particulier des intermittents du spectacle, le fait que nous soyons des précaires n'est pas que une fatalité due aux caractéristiques de secteurs d'activité. Et donc, on revient sur le fait que c'est un choix. Alors, je suis tout particulièrement sensible aux arguments qu'on a développés sur le fait que la précarité est inacceptable, qu'en tant que salarié, c'est invivable. Donc, c'est aucun droit social, aucune possibilité de se réveiller à aucun moment que ce soit, si ce n'est à espérer ce virer de la formation sur laquelle on joue ou virer du planning sur lequel on est inscrit. Et ça, c'est évidemment pas acceptable. Et quand bien même un système d'assurance chômage serait efficace, il n'empêche qu'il resterait ça. Donc, je pense qu'il est possible de se dire que. Parce que, bon, on l'a dit, c'est vrai que le contexte social depuis un nombre de mois est particulièrement difficile. C'est difficile d'être ambitieux, malgré tout, quand on voit les faits auxquels on se heurte. S'il s'agit d'être ambitieux dans ces projets, alors il ne faut pas avoir précarité comme quelque chose qui est un fait. Et comme quelque chose qu'on accepte. Et je pense qu'il n'est pas possible d'envisager la revendication sur l'indemnisation du chômage en disant que la précarité est quelque chose que finalement on prendra pour un acquis, on le serait au contraire.
Ouais, je voudrais poser une question pour ça en fait sur celui-là, c'était repenser en fait l'indemnisation plutôt que de penser comment s'organiser en termes de lutte. Donc on a parlé beaucoup de notions de répartition des richesses, et donc à savoir justement ce qu'on avait dans le cas du chômage, c'est plus finalement le droit aux nécessités de la vie. Donc finalement, c'était calculé selon notre besoin, forcément en fonction de ce qu'on avait pu travailler. Donc en fonction de notre besoin, ou éventuellement parce que tout simplement était potentiellement disponible pour travailler, en ce sens-là qu'on travaille, qu'on soit disponible pour travailler, on avait droit à une certaine rémunération. Et enfin, bon, là, de la CGT, on était plus parti sur la notion d'avoir un droit salarié assez fort. Moi, en termes de revenir à cette notion de société qu'on peut construire, et donc sans pour autant accepter cette précarité, donc en allant peut-être d'une manière différente qu'à la notion de répartition des richesses, mais également la notion de répartition du travail. Donc sans prôner bien sûr la fin du travail, qui sans doute solutionnerait le chômage. Mais ce que je dis aussi également, c'est qu'on a une évolution de société qui nous amène à travailler sans doute moins ou à se répartir, fait d'une certaine acceptation de l'industrialisation, de certaines choses qui datent peut-être de nos siècles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas non plus essayer de repenser l'image en termes de finalement quelle solution apporte justement pour qu'on ait plus ce cycle chômage. Et donc, juste au travers d'une répartition du travail, beaucoup plus partagé. Et donc, ce qui bien sûr nous amène toujours à un problème du rapport de force vis-à-vis du patronat, et notamment sur le débat sur le temps de travail qu'il y a aujourd'hui, qui ne va pas du tout dans le sens, au contraire, répartir de plus en plus de travail, mais au contraire, de le concentrer vers un moins de monde. Mais je voulais l'interroger avec différentes personnes à la table et voir quels étaient les axes en fait, dans le sens.
Moi, je voulais rebondir, mais je vais faire le lien peut-être avec deux, trois trucs. C'est pas des questions-réponses, hein, parce que alors, je crois que de ce côté de la table, on a des réponses. C'est plutôt, on cherche. Sur cette question de la partition du travail, enfin, je pense que le problème qu'on a, c'est que, là, bon, je vais dire peut-être un peu plus large, je pense qu'il ne faut pas confondre le travail et l'emploi, le travail et le salariat. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un vrai paradoxe, on le voit très bien que plein de quand on est au chômage par exemple, c'est que à la fois on est libéré de situations de travail qui peuvent être totalement détestables, on est libéré de l'exploitation, libéré de l'aliénation, et en même temps on est en même temps à l'écart. Et donc je crois que il y aurait tout un débat à mener sur cette question-là, enfin de débat à mener, parce que c'est vrai que il me semble que là il y a un vrai paradoxe où à la on a moi je suis vraiment convaincue de ça, que envie à travers le travail de participer à construire des choses, à participer avec ses qualités dans le pot commun de ce qui fait la société, et en même temps le seul cadre qu'on a aujourd'hui, c'est le salariat capitaliste où on fait dans un cadre aliéné, subi, exploité. Bon. Et donc je crois que quand on dit souvent, on est évidemment conduit à changer le tout, parce que effectivement, c'est un vaste. Bon. Mais je pense que, tout à l'heure, quelqu'un disait réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on pourrait venir, à mon avis, il faudrait réfléchir sur cette question de comment le travail peut être désaliéné, ce qui est impossible dans le capitalisme, qui repose de toutes les dominations, qui sont des questions de société qui me paraissent extrêmement importantes. Et que d'ailleurs, au passage, je trouve que c'est l'endroit où moi j'ai vu discuter ça, c'est dans les organisations qui rassemblent les chômeurs, et pas du tout, par exemple, dans les ordres syndicales. Moi qui suis pas salarié d'origine de l'heure, jamais syndical avec l'heure, on ne discute de ces questions. Parce qu'on a bien trop peur, parce que quand on se file, on est dans une espèce de trou noir. Et je pense qu'on aurait vraiment intérêt à rediscuter tout ça, parce que l'abolition du salariat, c'est bien que ce ne soit pas seulement le patronat qui en soit le fervent défenseur aujourd'hui. Parce que ce qui est aujourd'hui d'en finir avec l'arrière au sens de un contrat de travail avec des protections, c'est les entreprises qui enfin, il y a de plus en plus d'endroits où on remarchandise complètement le travail dans un sens strict marchandise, c'est-à-dire on achète une prestation, hein, dans les centres d'appel, il y a plein d'endroits où les gens sont soi-disant en freelance, en fait, ils se vendent sans aucune des garanties possibles. Donc là, on a un vrai paradoxe, c'est les petits en échange de l'aliénation. Ça, je pense que c'est. Et je trouve que c'est assez lié à la question de précarité, discontinuité. Parce que moi, peut-être par culture, je sais pas, je partage dans ce que tu disais là sur l'affaire de la précarité qui, à mon avis, aujourd'hui, est vraiment destructrice pour beaucoup de gens. Et en même temps, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui vivent la discontinuité comme désalante. Et cette question-là, il faut la prendre, parce qu'il y a la prendre pour tourner, pour en faire un élément de force. Je ne crois pas que travailler 7 heures ou 8 heures à la chaîne, parce que ça existe encore, même si c'est plus autorisé, bon, etc., les conditions sont différentes d'hier, mais je ne pense pas que ce soit un projet de vie qui puisse répondre à tout ce qu'on souhaite. Donc je crois que ces questions-là devraient être reposées. Et ce n'est pas vrai que c'est des questions qu'il faudra poser seulement un jour, quand on aura, je ne sais pas quoi, la révolution ou autre chose, on aura changé de société. Je pense que c'est complètement, ça va avec. Et aujourd'hui, et moi je pense que c'est vrai qu'il y a plein de. Moi je vois dans les jeunes autour de moi, par exemple, ou dans les saisonniers, par exemple, quand on discute avec des saisonniers, ils n'imagineraient pas travailler toute l'année. Parce que il y a aussi cette alternance, elle a un côté de récupérer de la vie aussi par rapport. Donc la précarité, quand on l'a subie, elle est extrêmement destructrice. Donc je crois que c'est avec tout ça qu'il faudrait vraiment réfléchir, faire une soupe qui nous permette de reprendre peut-être du rapport de force. Alors par rapport à la question de la répartition du travail, moi, je pense que, il n'y a pas une masse de travail finie. Les besoins, il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits. Le problème, c'est comment on produit de la richesse pour pouvoir payer ce qui. Et ceci dit, après, sur la répartition, moi, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de précarité, beaucoup de CD, beaucoup d'intérim, c'est une manière de réduire le temps de travail. Au lieu de réduire pour tous, comme le drame de la loi des 35 heures, c'est que je pense que c'est ça qui est une loi, on avait défendu ça, c'est en tout cas au début où on a commencé à construire cet outil. Le problème, c'est que la loi d'Aubry était une loi qui a eu tellement d'inconvénients que c'est un truc qui a dégoûté tout le monde de la réduction du temps de travail pour je ne sais pas combien de temps. Donc moi, je reste convaincue que réduire le temps de travail pour tout le monde est une réponse qui est parfaitement antinomique avec la réduction du temps de travail qu'on nous impose aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'intérim, beaucoup de précarité, beaucoup de temps partiel contraint. Qui là, c'est la réduction, mais la réduction avec la hausse des salaires, avec la réduction des garanties, la réduction des droits, etc. Et donc, il y a plus intérêt à, effectivement, dans les époques anciennes, on dit travailler 2 heures par jour, aujourd'hui, ça paraît complètement bon. Mais c'est ce débat sur réduire le temps de travail pour le monde et le payer différemment me paraît être tout à fait. Moi, je pense que c'est tout à fait d'actualité. La dernière chose que je voulais dire, c'est un petit peu comme ça, une interaction par rapport à ce que disait Michel. Sur la question de dans la bataille sur les retraites, on était 3 millions, 2 millions, 1 million, ça dépend si c'est la police qui cause, les syndicats, tout ça, bref, on était nombreux quand même, mais quand on regarde qui est à la rue, il y avait quand même un vrai problème entre le privé et le public. Et on a un vrai problème aujourd'hui d'unité des salariés. Et je crois que dans toutes les mobilisations qu'on a, il n'y a pas d'unité entre les joueurs et les salariés plus stables. Il y a des publics et le privé. Je pense que les salariés du privé ou du régime général des retraites, qui est l'établissement public, quand la bataille sur les retraites l'année dernière, ils se sont rappelés 93 aussi. Les décrets baladure, ils ont dit vous n'avez rien fait, à la maison. C'est totalement cynique. Et du point de vue du projet général, c'est une imbécilité pour tout le monde. Et je pense que c'est beaucoup comme ça que ça s'est passé dans la région. Et donc cette question de l'unité, donc retravailler sur des statuts uniques, des garanties uniques, que ce soit les secteurs dans lesquels, etc. Ça aussi, je veux dire, c'est des choses qu'on... Il y a eu des époques où on disait ça. On veut un statut unique pour tous les salariés, que ce soit du public ou du privé, etc. Parce que quand on ne fait pas, on le paye très très cher. Et on est en train de le payer très très cher. Alors ce que je dis, ça peut paraître peut-être vraiment des mots seulement, mais je crois qu'aujourd'hui, parce que c'est pareil sur cette question de l'unité, dans les débats qu'il faudrait qu'on ait, on discutait de ça tout à l'heure avec un jeune journaliste d'interview, qui sache qu'il y ait des... En plus, justement, quel débat il y a chez cheminots à statut, je ne sais pas si c'est dans la salle, sur le fait, en échange du fait qu'ils ne travaillent plus le week-end, ce sont des jeunes contractuels sans statut qui sont liés le dimanche. En général, le cheminot à statut est très content d'avoir son week-end. Quelle est l'unité dans cette question-là? Comment, quand on, par exemple, il faut qu'il y ait continuité du service public, donc il faut réparer les wagons le week-end, qu'ils puissent fonctionner le lundi. si les salariés à statut disent non, nous merci, filez ça à la fréquence, il y a quand même un problème. Et donc cette question de l'unité, par exemple, dans les entreprises, je crois que d'une certaine manière, ça arrange bien les salariés qui ont une convention collective, qui sont en CDI, etc., qu'il y ait un volant d'intérêt extrêmement fort. Parce que ça permet ça joue comme un éclat sur les à-coups de production, et ça permet, mais l'unité dans l'histoire. Et donc, je crois que, y compris par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens syndiqués, où disait la copine, disant, on est tous syndiqués. Je pense qu'il y a aujourd'hui des questions de stratégie et de conscience collective extrêmement fortes, et on pourrait, faire un lien avec la population, c'est-à-dire comment c'est pas possible, pourquoi ça est possible, par exemple, que ce soit tout le monde qui défende, qui se bat contre la réalisation de l'air. Pourquoi un certain nombre de choses, on laisse aux salariés le soin de défendre, alors que, est-ce que c'est pas parce que EDF, on a beaucoup coupé le courant quand même. Donc il y a plein de choses. Cette question d'unité, c'est un peu ce qu'on avait posé dans les faits, hein, avec la question de AC, chômeurs, précaires, salariés, associatifs, syndicalistes, etc. Je vous la livre comme. Mais je pense que là, on a un vrai problème qui nous en dit beaucoup, beaucoup sur la construction du rapport de force. Les autres pas très. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas.
Je voudrais revenir sur, justement, j'ai beaucoup apprécié mon intervention, surtout le début, sur l'instance au travail aliéné, justement. Parce qu'on est beaucoup de chômeurs et chômeuses, en fait, on ne se considère pas comme des chômeuses. En fait, on est considéré comme demandeur d'emploi, on est inscrit, mais moi, par exemple, je considère que je travaille. Je suis plein d'activités et je suis seul. On voit notamment cet exemple-là dans la première partie. Le film Attention dans le travail, où il y aura une suite qui montrera beaucoup d'endroits où il essaie de travailler autrement, justement, et c'est de façon différente. Bon, effectivement, le problème qu'on a, souvent, c'est l'histoire d'indemnisation. Moi, pour mes activités, j'ai le RMI galère, j'ai souvent que je n'ai pas du tout d'argent. Donc, je fais plein de choses gratuitement, des choses sans compter, et je ne suis vraiment pas le seul dans ce cas-là. Et ce mouvement de personnes qui va. Ça se développe et existe depuis de nombreuses années. Et c'est une réalité. Il est possible que ça peut s'étendre aussi avec les salariés qui se donnent du temps à participer à ce genre d'activité. Il y a aussi, avec ces dispositifs à CRMI, des fois, on est obligé de se remettre à travailler, de se faire couper des allocations, pour pouvoir, tout en travaillant à temps partiel, mais toujours avec des rémunérations très précaires, on arrive, mais par contre, on a une liberté. Et on a une liberté d'esprit et on s'oriente vers un autre chemin que celui qui a toujours possédé à avoir. Effectivement, on a d'autres choses, mais on se développe plus de notre être personnel et on se sent beaucoup plus libre que toutes les années qu'on a pu passer en des bureaux. On est limité financièrement, mais j'ai beaucoup aimé justement ton intervention. Je trouvais que ça manquait beaucoup tout le long du débat. Quoi. On parle beaucoup du salariat et du chômage. Beaucoup de chômeurs, on ne se considère pas de chômeurs. Quoi. On est des gens qui travaillent.
Oui, bonjour. Je voudrais intervenir sur ce que tu décris là, le rôle d'armée de réserve que servent les précaires, les intérimaires, les CES. Je prends mon cas. Moi, je travaille dans l'éducation nationale et on s'est battu, toujours contre la précarité. Et il y a des années, les CES qui sont rentrés dans les établissements scolaires. Et les CES, c'est les employeurs qui regardent la merci de l'éducation nationale. C'est eux qui, au niveau des atos, dont je suis, c'est eux qui vont faire les horaires plus ingrats, quoi. Et donc, au bout de tout le monde, s'est habitué. Et aujourd'hui, on a des camarades, quoi, il faut le dire, qui en viennent à regretter, parce qu'ils prennent des postes de CES aujourd'hui dans les bahuts, en viennent à regretter les CES. Et ça, c'est un véritable problème. Parce qu'on écoute certains et certaines, on en serait à réclamer des CES. Et c'est Parce que le problème derrière, mais c'est la précarité, c'est une drogue, quoi. Le problème, c'est qu'on a collé des ES et des précaires à tirer la rigueur en augmentant la charge de travail. Aujourd'hui, on retire les ES et la charge de travail, jour là. Et certains collègues, malheureusement, se prennent à ça, quoi.